Divergence FM, l'interview.
Alors, je suis avec le secrétaire départemental de la Confédération Générale du Travail. Ah, bonjour Serge, ça va ?
Bonjour.
Alors, on a l'habitude de vous recevoir très régulièrement dans les locaux de Divergence FM. C'est toujours avec un plaisir. Mais on tient à dire aux auditeurs qu'ils vont entendre cette interview le 14 juillet. Alors que nous sommes aujourd'hui quand même un petit peu en avance, on est le lundi 12, ce qui pourrait expliquer quelques informations que nous ne possédons pas, même si Serge doit être quand même dans les arcanes du pouvoir et connaître très bien M. Macron, qui parle donc ce soir le 12 et qui reparlera le 14 juillet. Vous n'êtes pas invité, vous, à la Garden Party, peut-être ?
Non.
Non, pas vraiment. Alors donc, pour les autres...
Aurions-nous été invités, que je ne sois pas sûr que nous y soyons y allés.
Ah, là c'est autre chose en effet. Alors donc, revenons un petit peu sur l'actualité. Alors il y a quelques jours, le congrès du Rassemblement National. La CGT a été en organisatrice d'un voyage vers Perpignan, où de nombreuses personnes qui voulaient s'opposer donc au Rassemblement en disant que c'est pas vrai, que c'est pas un parti normal comme tout le monde, mais un parti d'extrême droite, se sont rendus avec vous et d'autres organisations à Perpignan. Ça s'est passé comment, Serge ?
Et ça a été d'abord, ça a été réussi avec près de 3000 personnes qui ont manifesté à Perpignan. Pas tant contre le Rassemblement national que contre l'ensemble des idées d'extrême droite.
Voilà.
Pour rappeler effectivement que le Rassemblement national, ex-Front national, n'est pas un parti comme un autre et ne se situe pas, pour nous, dans la sphère des partis démocratiques. Et puis, rappeler par exemple qu'un certain nombre d'opinions, je pense à celle du racisme, ne sont pas des opinions mais des délits.
Tout à fait.
Et donc ça a été réussi puisque le congrès du Rassemblement national avait pour objet de mettre en orbite Marine Le Pen dans le cadre des élections présidentielles.
De 2022.
Que Perpignan, c'est une ville de plus de 100 000 habitants qui a été donc prise...
Par Monsieur Alliot.
Par Monsieur Alliot. Et donc il était important qu'il y ait une mobilisation d'ampleur et c'est une première qui en appelle d'autres.
Alors donc, vous, la CGT, vous avez quand même une force d'organisation très importante, on le sait, hein, puisque vous avez l'habitude des manifestations, etc. C'est bien aussi qu'il y ait des structures qui encadrent ce genre de choses pour pas que ça soit un peu anarchique aussi. Hein. On a peur toujours de débordements dans ce genre de rassemblement.
Vous parlez de la police ?
Oui, par exemple. Alors, surtout alors, ça, c'est mon fils qui m'a dit ça, parce que mon fils était présent à Perpignan. Il m'a dit non, on n'a pas besoin, on a toujours peur quand on voit les policiers, mais pas quand on voit les organisations syndicales ou vous trompez pas du tout.
Non, mais il fallait effectivement qu'il y ait eu un important dispositif d'organisation, voilà. Parce que ça se voulait à la fois revendicatif, mais aussi festif.
Voilà. Il y avait des concerts.
Il y a eu des concerts. Il y a eu de la restauration sur place. Tout s'est bien déroulé, juste un peu de provocation à la fin, mais voulu d'ailleurs par la mairie, puisque sous son influence, on a eu la surprise de voir que l'ensemble des bars, restaurants qui entouraient la place où on était réunis pour finir la manif avaient été complètement fermés, alors que le matin ils étaient ouverts, les gens ont pu aller prendre le café, se restaurer pour certains. Et donc voilà, à la fin, il y a eu un peu de dramatisation. Totalement exagéré, la provocation gratuite avec beaucoup de dispositifs policiers autour de quelque chose qui était festif et qui est totalement pacifique.
Ne nécessitait pas une répression, bien entendu.
Alors... Et qui donnait du coup à la ville un air bizarre, hein, puisque quand vous arrivez en plein centre-ville de Perpignan, en place de Catalogne, et que vous voyez que les restos, les bars sont fermés, effectivement, ça donne un peu un contexte un peu comme ça, un peu d'état d'urgence, vous voyez.
Oui, bah, c'est peut-être le message que veulent faire passer certains. Voilà. Vous savez,
c'était festif, c'était pacifique et il n'y avait pas besoin de ce type de
provocation. On se rappelle qu'il y a quelques mois, il y a eu cet appel de certains généraux et officiers supérieurs nous disant que la guerre civile était à nos portes. Vous qui êtes syndicaliste et qui côtoyez tous ces jeunes souvent, les gens des banlieues, etc. Ça n'a pas l'air d'être la guerre civile quand même. Hein.
Non, mais en fait, ce n'est pas qu'ils disaient qu'il y aurait la guerre civile, ils disaient qu'eux feraient un coup d'État si le gouvernement mettait une clé. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il nous semblait important d'être présent à Perpignan, parce qu'on voit que depuis plusieurs mois, années, il y a une dérive. Et puis surtout, pour étayer ce que je disais sur le fait que le Rassemblement national et ceux qui soutiennent le Rassemblement national ne se placent pas dans la sphère démocratique, il y a eu une multiplication d'actes de violence.
Notamment à Montpellier. Hein.
À Montpellier, à plusieurs reprises. Et puis, il y a eu, deux jours avant la manifestation, la condamnation de militants d'extrême droite sur l'affaire du commando de la fac de droit.
La fameuse affaire qui nous avait tenu en haleine, si j'ose dire, pendant quelque temps. Et on avait reçu, nous, les principaux protagonistes, enfin, pas ceux qui sont attaqués, mais ceux qui défendaient, notamment l'avocate des droits de l'homme qui était là pour défendre ces jeunes qui s'étaient fait massacrer. Là. Et bien, c'est bien quand même. La justice est passée quand même.
Il aura fallu du temps
et
de l'énergie pour que le dossier aille au bout. Sur une affaire qui est quand même
incroyable.
Assez symptomatique.
Quand on pense, c'est incroyable. C'est quand même incroyable quand on pense que ce sont des professeurs et des doyens de facultés qui mettent en place ce système de commando, on peut dire, de commando.
Une attaque de barbouze.
Voilà.
Et pour déloger des étudiants qui occupent un amphithéâtre, ce qui n'est pas une grande nouveauté. Hein.
Oui, et en marge de la manifestation du 1er mai, cette fois-ci, j'ai un des militants du SCUM,
que vous connaissez,
que je connais bien, puisqu'on le reçoit régulièrement ici, qui s'est fait tabasser à la station Albert Ier.
Non, mais il y a eu une série d'actes, on pourra en citer quelques autres, mais ça se développe partout en France.
Intimidation, on peut dire.
Non, mais c'est surtout pour rappeler ce qu'est l'extrême droite. Voilà. L'extrême droite, il y a la façade ripollinée qui se présente aux élections, et puis derrière, il y a le vieux terreau. Qui est un terreau violent.
La génération.
La violence.
Occident, avant, rappelez.
Et donc, il y a besoin effectivement de se mobiliser et puis d'être présent dans les rues, dans les manifestations, pour rappeler les valeurs auxquelles nous sommes toutes et tous attachés. Et donc, c'était l'objet du 3 juillet. On est content d'avoir réussi cette manifestation. À Perpignan et...
Et il y en aura d'autres, ensuite. Mais alors maintenant, si vous voulez bien, on revient. Alors, on est toujours 14 juillet aujourd'hui, mais c'est enregistré le 12. Alors, le président n'a pas encore parlé, donc on n'est pas devin. Mais on va peut-être parler de la réforme des retraites, peut-être. Peut-être que M. Macron va nous dire quelques axes de sa politique, mais vous les connaissez déjà. Et il serait question de la retraite à 64 ans... forcé, on va dire. Hein. On avance à marche forcée. Est-ce que vous pensez que si c'était le cas, comment réagiraient les syndicats, les retraités et les futurs retraités ?
Bon, d'une part, la question de la réaction, je crois que tout le monde a été extrêmement clair la semaine dernière lors de la rencontre avec Emmanuel Macron pour dire que si cette réforme, enfin une réforme, devait voir le jour, puisqu'on n'est plus dans le cadre de la réforme par points, on serait dans le cadre d'une modification de la loi de financement de la sécurité sociale pour effectivement passer à une retraite à 64 ans, ce qui fait que du coup, ça nous donnait totalement raison il y a quelque temps.
Hein. Quand on disait que la retraite à points
n'était pas nécessaire, que le gouvernement...
Vous étiez venu en parler.
Donc d'une part, je pense qu'il y aurait effectivement une mobilisation, des mobilisations, mais il y en a de toute façon qui sont prévues dès la rentrée, sur la question de salaire, de pouvoir d'achat. Mais surtout, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est en référence à ce dont on vient de parler juste avant. Oui. On sort d'un cycle électoral régional départemental avec une abstention massive record. Mmh. Et on a aujourd'hui...
Un Français sur trois, en gros.
Oui, et puis on a aujourd'hui un président de la République qui, un an et demi après une crise sanitaire telle qu'on en a peu connue, en tout cas de notre génération...
Moi, je ne me souviens pas de ça. Il y avait la grippe espagnole, mais on n'était pas nés.
Qui dit, finalement, je vais remettre à l'ordre du jour une réforme des retraites pour pousser plus loin... C'est symptomatique d'une façon de faire de la politique où finalement on est complètement déconnecté de la réalité des gens. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'un certain nombre de personnes qui pourraient partir à 62 ans ne vont pas partir en retraite à 62 ans parce que les pensions sont déjà trop basses. Voilà. Et donc, on va, par une réforme, peut-être, en tout cas, s'ils faisaient ce choix-là, on va continuer à aller dans ce sens, à savoir... C'est pas la question de savoir à quel âge les gens vont pouvoir partir en retraite, mais c'est surtout la question
avec quel argent.
C'est l'abaissement du niveau des pensions.
Voilà, c'est ça.
Alors qu'on vient d'apprendre que les plus grandes fortunes ont continué à s'engraisser.
Les 1000 milliardaires ne se sont jamais portés aussi bien.
Ils ne sont jamais portés aussi bien.
Et puis même.
Et la réforme elle va s'attaquer à qui ? Aux plus petits. Alors que les fonctionnaires ont connu maintenant 10 années du gel du point d'indice, alors qu'il y a zéro coup de pouce sur le SMIC, alors qu'on a des masses de jeunes et de moins jeunes au chômage,
Et qu'il est difficile de les embaucher, hein, c'est très difficile. On n'est pas bien placé, nous, ici, dans cette petite radio.
Et donc, on nous annoncerait cette réforme des retraites qui est complètement déconnectée. Ce qui est extrêmement inquiétant, c'est que du coup, on voit bien par cette opération, qui est quand même une opération de com', puisque ça fait 15 jours qu'on nous rabâche les oreilles. Le président va parler lundi, il reparlera mercredi, enfin bon...
Il a des choses à nous dire, peut-être. Peut-être pas, je ne sais pas.
Non, mais surtout, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il ait des choses qui finissent par entendre ce que nous lui disons, de ce qui se traduit du désespoir des gens, des conséquences des politiques qui mènent à la précarité et à la pauvreté, qu'il entende quelques propositions qu'on a aussi à faire pour améliorer le quotidien des gens. Et puis surtout, on voit que tout ça est en parallèle d'une crise Covid, dont a priori on n'est pas tout à fait dont on n'est pas tout à fait sorti, dont il devrait aussi nous parler. Moi je suis extrêmement inquiet parce que la question c'est pas tellement qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines à venir. Moi la question que je pose c'est qu'est-ce qu'on a fait depuis mars 2020. Est-ce qu'on a aidé à améliorer notre système de santé de façon
extrêmement notable? Le personnel soignant notamment.
Personnel soignant, les formations peut-être pour avoir plus de personnel en réanimation, puisque effectivement ce n'était pas forcément possible en 6 mois de former du personnel. Enfin, on pouvait améliorer un certain nombre de choses. Non, rien n'a changé. Est-ce qu'on est mieux doté?
Est-ce qu'on ne supprime pas toujours des lits, par exemple?
Non, mais est-ce qu'on est mieux doté? Il y a 15 jours, les usines de fabricants de masques ont poussé un cri d'alarme parce qu'on continue à se procurer les masques sur le marché chinois, pas le marché français. Enfin, il y a un certain nombre de questions comme ça qui sont posées, qui montrent que finalement, la pente qui a été prise par les politiques libérales, les politiques de rigueur et d'austérité, qui nous ont conduits dans le mur en mars 2020, finalement... On va les continuer. Est-ce que la France est dotée d'un vaccin français?
Ah ben ça, c'est une bonne question. Il y a Sanofi qui devait être sur la ferme, si bien compris. Ouais, mais... c'est pas encore le cas.
Et... ou alors ce sera Noël.
Oui, ou Pasteur. Ah, ce sera peut-être un cadeau de Noël.
Ou à la Trinité.
Oui, ah voilà, c'est juste après. Voilà. Donc,
non, mais quand on connaît quand même l'histoire de notre pays, notre capacité de recherche, enfin voilà, aujourd'hui on est en droit de se dire qu'il y a véritablement besoin d'un changement de politique.
Il y a un saccage, un saccage quand même de la recherche en France. Hein,
on a tout fait. Il y a eu le saccage de la recherche publique. Il y a eu tout ce qu'on appelle la recherche et développement qui a été envoyé vers des pays lointains. Oui. Et puis aujourd'hui, on est dans la situation où on se retrouve avec un pays qui est dépendant.
Voilà.
Qui est dépendant d'autres pays, mais qui est surtout dépendant d'autres entreprises, d'autres multinationales. Et donc, on se procure des vaccins dont on ne négocie même pas les tarifs, puisque de toute façon, on est complètement dépendant. Et donc, on a besoin de changer ça.
Et récemment, moi, j'avais eu au téléphone les délégués syndicaux de Sanofi, pas forcément CGT, il y en avait le Sud aussi, je crois.
Oui.
Voilà. Mais il y a CGT aussi. Et qui disait que c'était incroyable ce qui se passait à Sanofi, même sur le site de Montpellier. C'était quand même un fleuron de l'industrie pharmaceutique. Sanofi, c'est quand même pas rien. Et bien là, ils sont totalement dépendants, en effet, parce que le pôle recherche a été un peu mis...
C'est ce qui se passe dans beaucoup de grandes entreprises françaises aujourd'hui, à part qu'aujourd'hui, on a un regard particulier, effectivement, sur tout ce qui relève de la pharmacie, de la chimie.
Mais plus attention, oui, peut-être.
Mais on voit que finalement, il n'y a rien qui n'a été fait pour revenir en arrière et prendre des bonnes mesures. On nous parle aujourd'hui beaucoup... de réchauffement planétaire.
Oui.
J'entends qu'à Montpellier, on va sûrement planter des arbres sur la place de la Comédie.
Oui.
J'attends toujours, moi, des réponses sur que fait-on pour le fret. Il y a toujours aucun...
Comment on transporte les marchandises, quoi.
Oui, toutes les marchandises à Montpellier sont transportées par camion.
Et elles viennent de Chine en bateau, n'est-ce pas, en énorme container.
À part que la question aujourd'hui, c'est le fret ferroviaire.
Ouais,
il y aurait des,
voilà.
avec du fret ferroviaire, puisqu'on continue à détruire le fret ferroviaire français.
Alors qu'il y a des gares qui ont été construites, je crois, je ne dis pas des bêtises, hein, Serge, il y a eu des gares qui ont été construites un peu pour que ça fonctionne bien, le fret.
Voilà, ça, pour l'instant, ce n'est pas l'option qui est prise, toujours pour des questions de moins-disant social. Mmh. Et là, ça aurait des gains tout de suite en termes d'économie sur la production de CO2 et puis des questions de santé qui sont liées. Mais voilà, il y a des grandes décisions à prendre, par exemple.
Et puis, ça, c'est aussi la question du travailleur. Le travailleur qui, avec son camion, parcourt tous ces kilomètres et ces kilomètres et fait, comme vous le savez, de plus en plus des petites cabotages, comme on disait dans la marine, hein, qui cabotent avec leurs camions et qui viennent souvent des pays de l'Est. C'est pas des conditions de travail terribles, hein, ça non plus.
Non, mais c'est maximiser les profits pour les employeurs et puis surtout... c'est aussi faire en sorte que tout le stock, finalement, soit sur des camions qui sont en train de circuler, plutôt que d'avoir des entrepôts et couvrir des distances
en train
beaucoup plus courtes, la relocalisation de l'industrie, la façon dont nous devons consommer. Voilà des questions sur lesquelles on aurait bien aimé que le président de la République nous parle. Parce que s'il nous parle des retraites, ça va être quand même un peu compliqué. On est quand même dans une situation qui a bien démontré que suivant l'âge que l'on avait, on était plus ou moins exposé au risque.
Alors Serge, aujourd'hui, vous avez vu, je vous reçois un peu plus longtemps que d'habitude. D'habitude, c'est une dizaine de minutes cette interview, mais comme c'est le 14 juillet qu'on diffuse, je me suis dit c'est quand fait. Même, on fait la fête, on reste un petit peu plus longtemps avec vous. Donc on a déjà une quinzaine de minutes d'interview, mais ça permettra aux auditeurs de vous entendre plus, un peu plus développé, des choses que souvent on n'a pas le temps de développer.
D'accord.
Alors donc, on revient donc à cette retraite, on revient à ce... Cette façon, je dirais, de gouverner actuellement de Macron et de ses collaborateurs les plus proches, de Le Maire par exemple, hein, Bruno Le Maire, c'est quand même très hors sol, déconnecté avec la réalité des gens. C'est un peu ça qu'on peut reprocher. D'ailleurs, ça se traduit dans les urnes. Quand on voit que les candidats soutenus par La République En Marche, directement ou indirectement, Le score est quand même impressionnant, de faiblesse. C'est 7% de l'électorat à peu près, 8% de l'électorat. C'est pas grand-chose pour quelqu'un qui est quand même au pouvoir.
Oui, non mais...
Peut-être quelque chose qui ne va pas quelque part.
Non mais ça, quelque chose qui ne va pas, on ne découvre pas qu'il y a une crise politique, morale, éthique dans notre pays, de la même manière... qu'on attend aussi de la gauche,
lorsqu'elle
est aux manettes, qu'elle fasse un peu des politiques de gauche, vous voyez.
Oui,
si c'est pour appliquer les politiques de droite, pour nous expliquer que finalement
c'est
les droites
ont été
votées et que finalement il n'y a pas d'autre choix, autant arrêter de faire la politique. Moi je pense en particulier aux 1607 heures qui vont être appliquées aux ATSEM à la ville de Montpellier et c'est une situation qui ne nous satisfait pas du tout.
Bon, on vous a bien entendu, Serge. Merci d'avoir, une fois de plus, de venir nous voir à Divergence FM. Vous êtes toujours le bienvenu. Vous venez régulièrement parce que avec la CGT 34, on a une sorte de partenariat pour que vous expliquiez un peu ce qui se passe. Et c'est important parce que c'est trop facile de dire « Ah, mais je ne savais pas. Hein, je ne savais pas. » Si on commence à se voir des
moi, je vous propose à la rentrée qu'on puisse avoir un temps d'émission pour qu'on
Tout
vous explique
fait.
Une campagne que nous sommes en train de lancer sur la question des 32 heures. Puisque dans la séquence que nous sommes en train de traverser, il y a une aspiration à vivre différemment, à consommer différemment.
Mieux.
Et la question de réduction du temps de travail est clairement posée. Il y a des entreprises qui sont en train de l'expérimenter. Il y a y compris des entreprises qui nous appellent pour voir comment on pourrait mettre en place
les 32 heures
pour mieux travailler, pour avoir moins à se déplacer. Alors il y aurait des gains économiques, il y aurait des gains en qualité de vie, mais il y aurait aussi des gains environnementaux. Et donc je vous propose
Une
émission sur la campagne des 32 heures pour être du coup sur quelque chose où on puisse débattre de propositions.
Eh bien c'est super. Ben, écoutez, je vous ai bien entendu et on vous entendra sur Divergence FM à nouveau.
Merci Radio Divergence.